Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va essayer de finir le cycle. Essayez de pas être trop bavard, pendant qu'il n'y a pas trop de bruit. Donc, alors, si vous voulez, c'est toujours les passions dévorantes, mais alors cette fois, c'est une dévoration un peu spéciale, hein, puisque c'est vraiment le passage à l'acte. Même si déjà, on a déjà vu beaucoup de fois le passage à l'acte, hein, c'est-à-dire. Finalement, faire une beuverie, c'est une forme de passage à l'acte. Se goinfrer tout autant, jouer des jeux ou visionner je ne sais quelle vidéo pendant des temps extrêmes, c'est toujours des passages à l'acte, puisque le passage à l'acte, en gros, c'est le court-circuitage de la pensée. C'est-à-dire, au lieu d'avoir toute une chaîne associative et de pouvoir en parler, donc communiquer avec un autre humain, là, l'humain est dans un face-à-face avec un écran. Et donc, un écran ou une substance ou de la nourriture, ou une nourriture qui n'est pas considérée comme une nourriture, du reste, ou bien toute autre chose. Et là, aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Voilà, les passages à l'acte, c'est-à-dire vraiment, oui, un acte qui se met à la place de la pensée, mais les cas que je vais prendre sont assez extrémistes, et là, ça permet un petit peu de voir comment on peut passer de trucs sympas comme tout à quelque chose qui est diabolique. Et qui va nous amener à comprendre comment on peut sombrer dans la folie, quoi, en quelque sorte, qui peut être encore réversible, hein, qui peut être que temporaire. Après le passage à l'acte, il peut y avoir un retour à la conscience. Hein, parce que si on dit folie, c'est pour dire passer à l'extrême, commettre des actes qui sont punis par la loi. Donc ça renvoie à la question de la loi, quel est l'accord de l'humanité pour établir une loi fondamentale, quelque chose que, oui, qu'on ne saurait pas trop encore définir, mais enfin, bon, certains auteurs l'ont bien défini, mais bon, c'est une référence fondamentale qui permet de dire, oui, ça, c'est interdit, ça, c'est pas très recommandable. Voilà. Alors donc, je prends 3 points. D'abord l'humour noir, mais un humour noir un peu spécial, que je vais un peu redéfinir brièvement. Deuxième point, c'est l'émotion mutilée, c'est-à-dire j'ai déjà un peu évoqué cette histoire de quelqu'un peut éprouver quelque chose comme un sentiment, mais ce sentiment ne peut pas être verbalisé, peut même pas se présenter à l'esprit. C'est ce qu'on appelle une alexithymie, c'est-à-dire l'impossibilité de lire son émotion et donc de la communiquer encore moins, quoi, bien entendu. Et ça fait partie d'un petit peu ce que j'explore cette année, c'est-à-dire ces structures psychiques qu'on appelle état limite ou borderline. Et puis, alors, quand c'est vraiment trop, quand ça déborde encore, quand ça passe la limite, alors extrême, alors c'est le troisième cas, c'est l'ultra-violence. Alors, donc, bon, il faut être bien accroché, quoi, en quelque sorte, pour nager dans ces eaux-là. Bon, c'est pas n'importe qui peut le supporter, mais je mettrai le petit logo quand ce sera insupportable. Le 18, quoi, en gros. Voilà, donc ben, vous pourrez continuer à me poser des questions. Là, j'ai eu mon courriel, si vous voulez. Hein, donc, vous pourrez. Voilà. Alors, bon, l'humour noir, bon, il y a différentes formes d'humour noir. Voilà, celle que on peut, qui est recommandable, à mon avis. Mais des proches, je dis, on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc, avec qui peut-on rire? Bon, ben, je ne sais pas, je vous laisse méditer, mais voilà la face sombre de l'humour noir, à mon sens. Voilà, alors, cet humour noir en question, il peut être engagé avec du langage. C'est assez paradoxal, mais je viens de dire que c'est justement quand on ne peut pas parler, parler qu'on passe à l'acte, et pourtant on peut passer à l'acte avec du langage. Eh bien, je l'ai symbolisé là par la phrase là qui est sur l'écran, c'est par les petits points, c'est-à-dire les points de suspension, c'est-à-dire tout n'est pas dit. Mais, bien sûr, chacun peut compléter la phrase, et alors à ce moment, c'est l'acte diabolique. Parce que sinon, quand j'entends parler Patrick Cohen, ça n'a vraiment rien de répréhensible. C'est un chic type, bon, il dit des sottises, tout ça, c'est pas ça. Mais les points de suspension veulent dire autre chose. Alors, surtout quand c'est renchéri avec... je me dis que les chambres à gaz, trois points de suspension, enfin plusieurs points de suspension, bien entendu. Bon, alors là, bien sûr, on a tout de suite l'association qui se fait toute seule, parce que, bon, chambres à gaz, on sait que c'est chargé, que, bon, il y a tout un courant négationniste, au moins pour nier l'existence des chambres à gaz, c'est bien ça. Et quand on a évoqué auparavant Patrick Cohen, bon, le lien ne peut être que fait, que donc, quant à la chute, c'est dommage, il n'y a aucun doute, quoi. C'est-à-dire, la parole a été prononcée, mais c'est une parole perverse, bien entendu, et donc, oui, donc c'est l'humour noir, alors, comme je le mets en référence, là, en référence aux chemises noires, aux chemises brunes, c'est-à-dire les milices de Mussolini, si vous vous rappelez, qui est reprise par, on va dire, le PPF et beaucoup d'autres structures. Regardez bien dans les photos, vous voyez, même là, la personne en question a justement un gilet noir. Alors bon, je trouve que c'est sur fond noir, ça passe à peu près inaperçu, mais... Alors bien sûr... Le passage à l'acte, ça peut être un geste. Voilà un, là, voilà. Alors, bon, ça fait un petit peu déshonneur à Lyon, hein, puisque une des références, c'est la quenelle. Alors là, bon, elles sont plus ou moins grosses. Alors là, il dit, bon, ben, c'est une quenelle de 175. Hein, donc, ça veut dire, c'est cette taille, quoi, en quelque sorte. Hein, donc, c'est déjà, comme on dit dans l'armée, un gros calibre. Hein. Entendu. Alors, bon, j'y reviendrai pour donner la signification, parce que, bien sûr, un geste, il a toujours une signification. Voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs, et là, Roman Jakobson a en quelque sorte énoncé les six fonctions de la communication. Or, des gestes s'enchâssent dans un système de communication. Voilà, alors, quand on a un système de signes, ça s'appelle une sémiologie. Donc pour étudier la sémiologie, c'est-à-dire chercher la signification d'un geste, alors celui-ci en particulier, ben voilà les six fonctions de Jakobson. Voilà, alors, comme vous le voyez, ce qui est central, c'est bien sûr ce message. Donc quand je fais un geste, hein, par exemple, je ne sais pas si par exemple je fais ce geste, là, c'est pas pareil que celui-ci ou que celui-ci. Alors je prends ces gestes parce qu'ils nous viennent de l'Antiquité. Donc il y a celui-là aussi, puis on pouvait continuer. Tout ce qu'on voit à la récréation, enfin ce qu'on voyait à la récréation dans les cours d'école, bon, c'était à peu près des gestes qui venaient donc des Romains. On a pensé pendant longtemps que c'était les Romains, puis après on les a retrouvés sur les vases grecs de l'Antiquité. Donc, mais là, donc ce message, il va être tributaire de tout un tas de facteurs. Alors ces facteurs, c'est justement, donc le message peut être poétique, c'est-à-dire l'humour, en quelque sorte, hein, c'est agréable, c'est une forme un peu particulière, mais il dépend de qui l'émet, c'est le destinateur, donc, et puis qui le reçoit. C'est le destinataire, en quelque sorte. Donc voilà, les fonctions expressives, les fonctions conatives, bien entendu. Donc, et c'est en ça que ça rejoint ce que dit Desproges. C'est-à-dire, on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire, si on est tout seul, bon, c'est pas répréhensible. C'est à partir du moment où c'est émis, quand on est face à un public, à ce moment, bah oui, il faut quand même à peu près maîtriser ce qu'on fait, ce qu'on dit. Donc ce geste va s'adresser à un certain public. Bien sûr, c'est donc un contexte qui est important. Donc il faut toujours voir où sont prises les photos de la fameuse quenelle, en question. Je vous en montrerai un exemple, un seul, ça suffit bien. Et puis, c'est une fonction fatigue, c'est-à-dire qui va permettre d'entrer en contact avec autrui. Et bien entendu, si le contact est agréable, c'est-à-dire si on a un partage d'idéologie, on va dire, bien entendu, chaque fois qu'on le refait, chaque fois, ça donne du plaisir, et donc du coup, là, on se retrouve, et même on va au spectacle pour justement voir. Et c'est ça la perversion, c'est que c'est possible de ne plus faire évoquer la première phrase. Je peux ne plus parler de, par exemple, de la personne, mais si je dis simplement, je me dis que les chambres à gaz, 3 points de suspension, dommage, et bien ça fonctionne tout aussi bien parce que justement les gens viennent pour écouter ce qu'ils ont entendu par ailleurs, par le bouche à bouche, si vous voulez, le je ne sais comment, bouche à oreille plus exactement. C'est-à-dire, bon, l'histoire elle est connue et on vient assister pour justement penser en même temps à l'unisson. Donc, voilà, c'est la fonction pratique, c'est ça que signifie ça. Ça me touche. Et comme ça me touche, je continue à citer, et bien entendu, pour arriver à percer le geste, il faut percer le code. Voilà, et le code, ben, il est en fonction d'un certain nombre de choses. Alors voilà, par exemple, pour décrypter le code, c'est assez simple, voilà un exemple d'une liste électorale. Et quand on connaît le personnage qui est à droite, bon, c'est Soral, donc bien entendu, c'est connoté, en quelque sorte, très fortement extrême droite, quoi. En gros, qui dit extrême droite, ben dit déjà quelque chose qui n'est pas très loin d'une idéologie particulière qu'on va retrouver dans la troisième partie, si vous voulez. C'est une idéologie totalitaire, mais plus que totalitaire, bon, disons, peut-être risquons le mot de nazi, c'est-à-dire l'hitlérisme. C'est-à-dire l'idéologie qui est sous-tendue, c'est Mein Kampf, en gros. Voilà. Alors bien entendu, bon, c'est un peu redoublé, hein. Bon, alors, hélas, il y a un ancien enseignant de Lyon 3, hélas, qui déshonore l'université, mais auparavant, il y en avait un autre qui était à Lyon 2. On va voir l'ami Robert, là, j'en parlerai à la même occasion. Un excellent enseignant, au passage, de japonais, mais bon, il pense bizarrement. Et ça va tellement loin que si vous ne connaissez pas le code, vous vous faites déborder. Et là, Manuel Valls s'est servi un cuchon, comme on dit à Lyon. Et alors, ça va tellement loin que, bon, par inadvertance, même Barack Obama, pour sa campagne, la deuxième campagne, a fait un show avec Beyoncé, et ils ont fait un truc qui était, je ne sais pas si c'était à la mode ou quoi, mais bon, là, je pense que c'est vraiment par inadvertance, hein, mais bon, c'est de l'humour, alors, en ce moment, ça change de... C'est là, on voit tout de suite que le contexte n'étant différent, bon, c'est plus drôle, quoi. Voilà, alors, bien entendu, on a vu l'extrême droite, bon, pas de chance, il y a quelqu'un qui se dit de gauche, bon, j'en doute pas, mais alors, bon, il y a mieux que la quenelle, là, c'est la merguez. Et alors, bon, ça peut être potache, ça peut être un humour noir, mais les phrases qui l'accompagnent, surtout à la fin de cette émission, bon, c'est vraiment, là, bon, ça devient obscène, quoi, en gros. C'est-à-dire, l'autre est assez fin pour juste évoquer un certain nombre de choses, mais le père Baudot, là, quand même, était un peu fort café, quoi. Du coup, on peut pas suivre, quoi. Alors, on voit même que Laurent Ruquier c'est pas très bien comment le prendre. Lui qui a la rate qui se dilate assez facilement, là, bon, il est quand même en disant, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber sous le brin, quoi. Et enfin, bon, voilà. Donc, une ancienne juge, bon, qui fait partie d'Europe Écologie, Eva Joly, donc, vous la reconnaissez, qui est norvégienne, qui s'est mariée avec un Français, et donc, du coup, elle est franco-norvégienne, et qui compare justement le fameux Dieudonné avec Breivik, voilà, qui est donc norvégien, et qui donc, bon, elle lit norvégien, elle a dû probablement lire les 1500 pages de Breivik, et donc elle a bien reconnu les mécanismes, donc je crois qu'on peut, à mon avis, lui faire confiance en disant que Dieudonné ouvre la porte à Breivik, en quelque sorte. Hein. Alors, quand vous savez l'idéologie de Breivik, ben, là aussi, c'est toujours du même tonneau, c'est le même contexte. Alors, voilà un petit texte d'un blog d'un patriote républicain qui fait un petit retour pour bien ramener peut-être ce qui s'est passé en France il y a quelques années. N'oubliez pas que les intellectuels médiatiques entre 1940 et 1945, Maurras, Céline, Rebattel, Brasillard, leur antisémitisme argumenté donnait bonne conscience à des gens très bien, c'était l'expression, hein, les années 40, hein, c'est des gens très bien, Laval, Jardin, Bousquet, Papon, et à leurs exécuteurs de basses œuvres, Flic Ripou, alors je cite hein, les termes qui sont, Flic Ripou de la Gestapo française, fonctionnaire ordinaire, mais zélé, du service des étrangers de la préfecture de police, garde mobile de Drancy, délateur, milicien, et puis chemise noire et chemise brune, etc. Voilà, donc c'est-à-dire, bon, ça peut être présenté comme de l'humour, et puis après ça devient un humour un peu spécial. Donc voilà ce que j'ai appelé le Pax entre le Dieudonné en question et puis Robert Forisson, au passage, hein, Forisson qui est donc... on va dire un des auteurs négationnistes assez célèbres, qui donc là aussi donc, a nié, en étant, en se disant historien, nie l'existence des chambres à gaz et de tout un tas d'autres choses, en quelque sorte. Bien entendu, alors là, pour rester dans l'humour, ben, c'est Noam Chomsky qui a fait de l'humour sans le savoir, par inadvertance lui aussi. Donc bien sûr, c'est le linguiste, et puis... c'est un linguiste qui est pour la liberté d'expression. Et un beau jour, un de ses collègues linguistes, pour ne pas le nommer Brickman, pour ceux qui le connaissent, arrive et puis l'embobine en disant « Écoute, il y a Robert Forisson qui ne peut pas arriver à trouver un éditeur. J'ai fait une pétition, est-ce que tu veux bien la signer pour qu'il puisse être édité ?» Alors, bon, bah, Chomsky l'a signé, la pétition, puis après coup, le lendemain, il a reçu du coup de fil. Hein, quoi, espèce de connard, t'as signé pour que Forisson, machin, on bloque de tous les côtés, puis... Bon, alors, bon, il a réalisé qu'il avait fait une petite erreur, il dit, mais bon, ben, raison plus, je maintiens, je suis pour la liberté d'expression, mais maintenant, on va lui reporter, on va lui répondre, et puis on justement répondre à chacun de ses arguments. Voilà, c'est Vital Naquet qui a répondu en particulier. Hein, mais bon, voilà. Alors, et là, au passage, il retransmet un texte sur les manipulations. Alors, c'est pas lui qui l'a écrit, mais il le co-signe. Hein, voilà les 10 stratégies de manipulation. Alors, je pense que à la lecture, vous allez reconnaître l'humour du soi-disant Dieudonné. Première chose, la stratégie de la distraction. Deuxièmement, créer des problèmes. Troisième, la stratégie du dégradé. Ben, c'est pas l'élévation, hein, c'est vraiment on est dans le passage à l'acte, quoi. La stratégie du différé. S'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Sixièmement, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Remplacer la révolte par la culpabilité. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Bon, ça, c'est, donc, voilà, pour manipuler les gens, il faut justement utiliser toutes les armes possibles et imaginables, et en particulier toutes les données scientifiques. Alors, là, il y a quelques exemples qui sont donnés dans le texte originel, mais on peut dire certaines parties des neurosciences, et en particulier le neuromarketing, est assez épouvantable de ce côté-là. La publicité, c'est pas autre chose qu'une manipulation, et donc on va faire des études scientifiques pour savoir quels sont les éléments qui vont être les plus choquants, choquants au sens de impact émotionnel, pour pouvoir faire acheter, par exemple, ou pour faire voter, ou pour faire... voilà, je pense vous rappeler certaines campagnes électorales, l'avant-veille du scrutin, il y avait un vieux monsieur qui a été tabassé, alors là, pour les médias, on montrait sous toutes les coutures, ça permettait à l'ancien ministre de l'Intérieur d'avoir une cote bien plus grande, quoi, hein, bon... Alors, laissons pour le moment refroidir un petit peu cet humour pour passer au deuxième point. Donc, c'est l'émotion mutilée, qui donc peut être vue comme des passages à l'acte avec des intensités très différentes. Vous allez apprécier, puis vous allez reconnaître, je pense, beaucoup d'adolescents. Hein, c'est quand même là que ça se passe, le tatouage, le piercing, la scarification. Les automutilations et puis, malheureusement, les tentatives de suicide. Alors voilà, quelques échantillonnages hein, de ces décors qui permettent de mettre un petit bout et puis comme ça on a envie d'aller plus loin, quoi, en quelque sorte, je suppose, c'est le but du jeu. Hein. Bon, alors, sur toutes les parties du corps... Bon, alors avec des encres plus ou moins indélébiles. Alors, bien entendu, dès qu'on touche comme ça à la peau, c'est-à-dire le moi-peau, si on est psychologue, hein, mais la peau, pour rester biologique encore, bien sûr, tout de suite, vous rentrez dans une nouvelle catégorie. Puisqu'il y a effraction sur la peau, forcément, il y a risque infectieux. S'il y a risque infectieux, ça peut être n'importe quel virus. Et donc, du coup, automatiquement, ça vous coupe de la possibilité de pouvoir donner votre sang. Alors, je ne sais pas si le corollaire est vrai, si ça vous coupe de la possibilité d'en recevoir. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas restituer à l'humanité ce que vous aurez reçu. Bon, ça devrait poser des questions. Alors, bien entendu, beaucoup de facteurs culturels entrent en jeu. Il y a beaucoup de cultures qui utilisent les tatouages et beaucoup d'autres choses, les scarifications. Bon, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, là, par rapport à ces périls, par rapport au virus, je pense, aux transfusions sanguines, ça doit être un argument qui doit être pris en compte hein, dans la décision. Voilà, alors on utilise Justin Bieber, voilà ce qu'il a sur les bras, par exemple. Hein. Tigre, tailleur, en un mot, ou un ange, ou je ne sais quoi, enfin, peu importe, ou bien tout un mouvement musical, gothique, par exemple, et qui va de pair avec tout un tas de décorations, là aussi, toujours des tatouages, voilà quelques exemples, voilà, là, donc, qui sont plus poético-érotico-maniaco-dépressifs, quoi, et puis le piercing. Piercing, je pense qu'il faut le dire, mais bon, nous on dit piercing, piercing. Voilà, alors, sous toutes les coutures, hein, tout ce qui dépasse peut être percé et orné, si je suis sympa, d'un anneau ou de plusieurs. Voilà, alors, bon, ça peut être la langue, ça peut être le téton, ça peut être je ne sais quoi, mais bon, c'est la porte ouverte à ce qui s'appelle le BDSM. Sorte. Bon, voilà, même alors, bon, c'est un type de tatouage génital, tout du moins, mâle, femelle, Nefertiti, Prince Albert, si je me rappelle bien. Mais ça aussi, bon, c'est ancestral, hein, aux Indes, vous avez les Aprodaya, fait partie du Kama Sutra, etc. Enfin, c'est pas en soi un passage à l'acte, mais alors quel est le rituel? Est-ce qu'on a perdu tous les rituels dans notre société au point d'en avoir certains contre espèces sonnantes et trébuchantes qui permet de retrouver quelque chose d'un acte symbolique qui vient d'être perdu ou, je pense, hein, mais c'est donc, bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc voilà, donc là aussi, un petit panorama là, qui cumule, quoi, hein, vous voyez tout, l'ensemble des éléments qui s'enchaînent ou qui se déchaînent, je ne sais plus très bien. Alors bien sûr, une autre catégorie, donc ce sont les scarifications. Donc, bon, l'année dernière, j'avais parlé du nom qui était donné par les adolescents, hein, c'est le code-barre, tout simplement. Hein, là, bon, là, il est sanguinolent. Hein, là, bon, il faut quand même avoir un moral, hein, c'est vrai. Alors là aussi, ça peut être partout, hein, absolument. Voilà, les photos que j'ai trouvées sur Internet, qui est très... très volubile sur ces questions, puis alors après vous tombez sur des catalogues, et donc vous en avez à appel. Mais il y a aussi des blogs, hein. Alors les blogs sont à regarder toujours avec beaucoup d'attention pour ces choses qui nous échappent un peu, qui sont pas tout à fait de la même génération, en somme. Hein. J'ai commencé à m'auto-mutiler parce que je ne voyais pas d'autre moyen. Mais là, je ne peux plus m'arrêter. C'est rendu que je suis accro à la douleur. Mais j'essaye d'arrêter. Voilà, c'était d'abord le mal-être est tel qu'il y a une alexithymie qui s'est mise en place, c'est-à-dire je ne ressens plus rien, je ne ressens même plus mon existence, pour arriver quand même à tester si j'existe toujours, je suis obligé de me taillader la peau, en quelque sorte, le moi-peau, et donc là, ça fait mal. Pas tout de suite, parce que bien entendu, il y a des processus d'encéphaline qui sont déversés, hein, c'est un état de stress, mais à un moment, bon, ça coince un peu. Hein, donc. Voilà, par exemple, Lou, là, écrit, je me suis automutilé de mes 14 ans à 16 ans. J'ai été violé à 14 ans. Voilà, donc c'est synchrone, hein, elle a commencé après un viol. J'ai perdu ma virginité. Je me sentais tellement mal, j'ai voulu me tuer, je me suis ouvert les veines, je me suis raté, mais la douleur m'a fait du bien. Voilà comment j'ai commencé. J'en garde des cicatrices énormes, une centaine. Alors bien sûr, il y a des réponses après, donc il y a toute une analyse psychologique à faire, et beaucoup de psychologues répondent, hein, et donc disent, donnent des conseils, essayent de justement un petit peu calmer le jeu, quoi. Bon, voilà des types de, là aussi, de, je ne sais quoi, de scarification qui peuvent apparaître. Et alors, bon, des études ont été faites, donc là, il y a Pomereau et Marie Choquet qui ont eu beaucoup, qui voyaient beaucoup d'adolescents, qui voient toujours pour Xavier Pomereau, qui voient beaucoup d'adolescents. Voilà une enquête qu'ils ont faite, tous les deux. Dans une enquête menée au sein de plusieurs établissements scolaires français, donc Xavier Pomereau et Marie Choquet, ont constaté que les élèves concernés par les blessures auto-infligées étaient trois fois plus nombreux à présenter d'autres comportements dangereux. Hein, donc, les automutilations ou scarifications assez profondes sont jumelées avec d'autres symptômes, voire à risque, non seulement dangereux, mais à risque, dont les fugues et les risques suicidaires. C'est-à-dire, on va plus loin, on va aller chercher les veines, quoi, à ce moment. Pas simplement le derme, mais les vaisseaux sanguins. La souffrance du jeune serait directement en cause, souffrance pour laquelle il n'arriverait pas à trouver une solution, et dont le soulagement par la scarification ne peut être qu'éphémère. Et donc, si l'effet ne fait plus sentir, ben, on recommence, et du coup, on va encore, toujours, c'est le problème de la dépendance, hein, puisque c'est, et même de l'addiction, c'est vraiment toujours dans la même idée, c'est que on s'accoutume, et puis on va avoir besoin de plus de stimulation pour obtenir plus d'excitation, pour enfin ressentir quelque chose. Ainsi, chez les adolescents ayant fait au moins une tentative de suicide, près des trois quarts avaient une histoire de blessure auto-infligée. Cela ne signifie pas qu'un jeune qui se scarifie sera aussi un jeune suicidaire, mais force est de constater qu'un jeune qui se blesse est un jeune en souffrance, et que, à long terme, cela peut avoir des conséquences bien plus néfastes que les cicatrices éventuelles des scarifications. Voilà, c'est jamais anodin de se couper, mais c'est le signe, au moins pour les parents et pour éventuellement les éducateurs ou les enseignants ou quiconque, n'importe quel adulte qui est autour, ou même les copains, en fin de compte, là, de dire « Hey, t'as quelque chose bon, s'en occuper. » Donc voilà, par exemple, ben voilà, Catherine Rioux fait des groupes de travail avec les enfants, les ados qui se scarifient, et le thème du travail, c'est l'écriture, justement. Et que donc, transformer finalement cette espèce de scarification qui ressemble fortement à l'écriture primordiale, finalement, l'écriture cunéiforme, tiens, pendant qu'on y est, on pourrait peut-être déplacer un petit peu le problème de la peau sur une page, et puis écrire un certain nombre de choses. Et voilà, par exemple, une carte du monde des automutilations. Ben là, on voit bien qu'il y a une dimension culturelle énorme, puisque ce qui est en rouge sang, c'est là où il y en a une grande quantité, 850 pour 100 000 personnes, et puis ce qui est en jaune, c'est bien moindre, donc pour l'Amérique latine, par exemple, en gros, c'est 80 pour 100 000. C'est-à-dire qu'on a quand même 10 fois moins qu'en Sibérie, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très variable d'une culture à l'autre, très probablement. Donc bien sûr, ces automutilations, elles sont de tous ordres, des coupures, des brûlures, des écorchures, et donc bien entendu des soins qui sont nécessaires. Et là, tout récemment, une étude en Grande-Bretagne alarme la communauté parce que ces automutilations sont montées de 11% en une année. C'est-à-dire qu'on voit affluer tout un tas de jeunes personnes qui sont automutilées. Voilà, alors là aussi, il y a tout un tas d'articles qui attirent l'attention. Attention, il y a là aussi des sites internet qui font l'apologie des automutilations, elles donnent toutes les recettes, voilà, comportement affectant les adolescents et les jeunes adultes, l'étude d'un psychologue s'alarme de l'impact de ces vidéos au succès croissant. Voilà, parce qu'il y a des compteurs, donc du coup on peut savoir combien de personnes voient. Alors voilà deux blogs, là, simplement, pour pas être trop long, assez récents. On se mutile quand on n'a plus de mots pour décrire sa souffrance. Quand la souffrance intérieure est trop forte, on l'extériorise. Se couper provoque une douleur physique et ça fait du bien. C'est peut-être mal, mais c'est une des seules choses qui soulage vraiment. Voilà, on sent la souffrance, quoi. Ça peut pas être l'amour. Là, c'est vraiment quelque chose de mortifère qui est mis en place. Et puis l'autre qui prend la même tonalité, toujours au mois de juin. Je fais l'automutilation aussi à cause du passé. Quand j'étais petite, il s'est passé un truc. 3 points de suspension. C'est elle qui écrit, c'est vraiment sa graphie. Devrais-je en parler à ma meilleure amie? En effet, on n'est pas aux heureuses, en parlant de toutes les personnes qui s'automutilent. Voilà, il y a un mal-être très clair. Alors, bien sûr, donc, si ce mal-être s'amplifie, que l'espoir se résorbe, là, on a ce qu'on appelle la tentative de suicide. Pendant longtemps, ça a été le suicide, et puis les barbituriques, qui étaient le vecteur essentiel, ont été interdits progressivement, en tout cas dans leur diffusion et même dans leur production, étaient plus que gérés par la santé publique, en quelque sorte, dans tous les pays occidentaux, en tout cas. Et donc, maintenant, ce sont les benzodiazépines, plutôt, qui permettent de réduire les angoisses et puis de trouver le sommeil. Et honnêtement, je crois, en tout cas, ce qui se dit à l'hôpital psychiatrique, il faut vraiment avaler plusieurs tubes pour arriver à se suicider. Et même, il faut copieusement arroser avec de l'alcool pour booster l'effet des benzodiazépines. Mais surtout, c'est que bien souvent, il y a des signes avant-coureurs, et comme les parents sont un petit peu inquiets, ils arrivent à temps pour appeler le SAMU, faire un lavage d'estomac, et puis hop, ça repart, une petite convalescence, et puis... Voilà, donc on a non plus les suicides, comme dans les années 50-60, maintenant on a les TS, donc tout simplement. On appelle tentative de suicide un acte auto-agressif destiné à mettre fin à sa vie, auquel le sujet survit. La tentative de suicide se distingue du suicide dans la mesure où elle n'aboutit pas au décès de la personne, mais bien que l'intention initiale d'attenter à sa vie ait été délibérée dans l'esprit du suicidant. C'est-à-dire, une fois qu'on ait la certitude que ce n'est pas un accident, en quelque sorte. L'intervention précoce d'un tiers, interrompant le processus mortifère, peut être à l'origine de la vie sauve. Il existe parfois une détermination de mort moins grande chez ces sujets désespérés, sans espérance de changement, plus que fondamentalement dans le désir de mort. Voilà, ils ont plutôt envie de changer quelque chose. Donc, bien souvent, quand ça se solde bien, c'est-à-dire bon, qu'on peut récupérer la personne, on comprend que c'était un signe d'alerte. Voilà. Et alors, à ce moment, c'était un appel au secours, et qu'à ce moment, il faut l'entendre tout de suite. Hein, il ne faut jamais laisser passer la chose sans la traiter, sans pouvoir déjà mettre des mots, et puis peut-être aller consulter un homme de l'art, hein, etc. C'est-à-dire, bon, voilà, pour les parents, c'est absolument un indice que l'enfant ne va pas bien. En réalité, quelle qu'en soit sa cause, la tentative de suicide est une conduite grave. Elle doit être analysée avec beaucoup d'attention et faire impérativement l'objet d'un examen psychiatrique. Alors, examen psychiatrique, ça veut dire que l'adolescent, je pense surtout aux adolescents, hein, mais c'est pareil pour les personnes plus âgées, hein, pas plus jeunes. Alors ce soir, il ne faut pas qu'on tarde, parce qu'il y a bien sûr une suicide. c'est la suite, hein. Alors là, c'est les épidémies, quoi, hein, comme vous le savez. La personne doit être consentante, hein, pour qu'un psychiatre puisse la prendre en charge. Alors à ce moment, tant qu'elle est mineure, même après, le parent a toujours la possibilité de demander l'internement. Vous savez, il y a 3 degrés. Hein, ou bien c'est le patient lui-même qui demande son internement, puisque internement, ça veut dire rentrer dans une clinique cool, hein, bon. Ou bien c'est un tiers qui est assez proche de lui, qu'aux parents ou conjoint ou voisin qui tient à lui. Bon, c'est une violence, mais une violence qu'on peut justifier parce que c'est pour son bien, en quelque sorte. Ou bien, si ça dépasse les bornes, comme on verra le troisième temps, souvent c'est le préfet qui prend les rênes, quoi. C'est l'internement d'office. D'autres attitudes de prise de risque, conduite en état d'ivresse, usage extrême de toxiques, conflits avec violence, sont considérés avec certaines personnes comme des équivalents de conduite suicidaire. Hein, si vous faites de pique-pendre, comme on dit à Lyon, c'est pareil que se suicider, c'est-à-dire bon, vous n'avez aucune chance d'échapper. Alors ça, c'est toute une mythologie qu'on appelle l'ordalie. L'ordalie, c'est un mot savant un petit peu qui renvoie à ce qui se passait au Moyen-Âge, le jugement de Dieu en quelque sorte. C'est-à-dire on mettait la personne dans une situation dont elle ne pouvait pas sortir, comme au milieu d'un brasier par exemple. Hein, bon, Jeanne d'Arc, je ne sais pas voir si elle n'est pas ligotée. Dieu doit faire quelque chose pour la sauver si elle n'est pas coupable, si elle n'a pas péché en quelque sorte. Et puis si elle crame, c'est qu'elle était coupable. Voilà. Bon, alors l'Inquisition est basée là-dessus. Hein, donc, alors que jamais personne théoriquement ne vient vous mettre dans de telles situations, c'est les jeunes eux-mêmes qui se mettent dans la situation de rouler donc à des vitesses supersoniques sur des 2 routes de préférence en faisant des slaloms sur l'autoroute à contresens. Enfin, je vois toutes les péripaties qui font les délices de la 9 ou de la 8, je ne sais plus, Morandini ou je ne sais qui. Bon, il y a tout un tas de, d'émissions qui vous en donnent à la tonne, à appel, de ces espèces de trompe la mort, en quelque sorte, ça s'appelle l'ordalie, c'est-à-dire jugement de Dieu, voilà, bon, ben, de toute façon, je suis tout puissant, de toute façon, je ne crains pas la mort, je suis plus fort, et donc, j'y vais, quoi. Enfin, bon, alors, bien sûr, là, en toile de fond, on sait que certains jeux vidéo qui sont un petit peu déclassés, enfin, qui sont du côté des 18 ans et plus, quoi, c'est-à-dire adultes, bon, favorisent, hein, je vous ai parlé de GTA, qui en gros utilisait des voitures GT, quoi, en gros, hein, bien sûr, et qui roule à 300 minimum, plutôt 450, et je crois que le record c'est 500 et quelques. Donc forcément, au bout d'un moment, on s'identifie, puis on se prend pour le héros de je ne sais quelle série, quoi, en quelque sorte. Alors, bon, bien sûr, des statistiques ont été faites. Parmi les adolescents français qui ont tenté de mettre fin à leur jour, un quart est homosexuel. Voilà, donc, voilà aussi, c'est en toile de fond, c'est-à-dire que il y a tout un mal-être qui veut que... etc. Bon, je pense que vous pouvez l'interpréter. Alors, le troisième point, donc, on reste dans les clous, hein, voilà, c'est l'ultra-violence. Et donc, attention, les hommes sensibles... Voilà, alors là, bien sûr, là, il faut passer le grand braquet, là. C'est l'ultra-violence, et donc c'est, en gros, le déchaînement de Thanatos, c'est-à-dire des pulsions de mort, quoi, disons-le franchement. Et alors, pour arriver à un petit peu classifier, pour qu'on y voit un petit peu clair, donc pour regrouper, ce sont des choses que vous connaissez très très bien, hein, parce que ça, c'est tellement émotionnel que... vous ne pouvez pas être passé à côté, donc ce sont les Américains qui ont classé les tueries en différentes catégories, et donc les auteurs de ces tueries, donc là à ce moment les tueurs, eh bien sont au moins au nombre de 4, si ce n'est plus, mais là je vais rester à ces 4 de base, donc les tueurs de masse, avec une variante, c'est les tueurs de masse en milieu scolaire, une deuxième catégorie. Puis troisièmement, celle qui est la plus célèbre, tout le monde connaît, bon, on peut le dire pratiquement en anglais parce que tout le monde comprend, je pense, les serial killers, c'est-à-dire les tueurs en série, et puis enfin, les tueurs à la chaîne. Voilà, bon, ce sont des procédures assez différentes. Mais bien sûr, certains sont dans les trois catégories, ou les quatre, hein, en gros. Vous avez bon, plusieurs modalités, mais en gros, je vais essayer de vous les donner. Alors, voyons d'abord donc, la première catégorie, tueur de masse. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Voilà, alors, ça se déroule pratiquement toujours sur une journée. Une belle journée, où c'est ensoleillé, et puis tout à coup, patatrac, 24 heures chrono, un coup de folie. Le tueur ne connaît pas ses victimes. Il les rencontre au hasard. Et alors, la caractéristique, là, est différente en Occident et en Orient. En Occident, ce sont des armes à feu, automatiques, de préférence, hein, c'est d'abord des chargeurs à 16 balles ou 25, tous les calibres possibles. Et puis, en Asie, c'est plutôt l'arme blanche, au couteau, quoi. Voilà, on reste fidèle à ces caractéristiques culturelles, en quelque sorte. Hein. Voilà, bon, alors, je pense surtout à la Chine et le Japon. Bon, ben, c'est sûr, peut-être faire ça beaucoup, c'est avec un sabre, on se fend en deux. Et ben, quand on détourne l'agressivité sur autrui, ben on utilise les objets familiers. L'objectif semble être l'inscription dans l'hypercore. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a manifestement maintenant une surenchère entre les différents tueurs. Et il y a des crimes qui se répandent, et ce qui fait qu'on dirait qu'il y a une explosion, quand je vais vous donner quelques chiffres. Voilà. Puis le tueur, parfois, se suicide. Alors, il veut bien mourir, mais pas seul, et donc pour ça, il faut qu'il en tue un bon paquet, d'humains pour finalement faire comme ces enterrements qu'on retrouve là en archéologie, là où un grand chef de guerre est entouré de tous ses guerriers, là, enterrés, on ne trouve que les os, bien sûr, mais on a l'impression il y a quelque chose de ce rituel. Bon, je comprends que quelqu'un soit désespéré, qu'à ce moment il se plaint, oui, ça, bon, mais c'est après des grandes séries. Là. Voilà, alors le premier qui a défrayé la chronique, c'est au Québec. Voilà, bon, alors là, le Québec est toujours présenté comme étant bien pacifié, bien différent des USA. Eh bien, là, il se trouve que, là, à cette époque, 1984, il y avait le Parti du Québec libre, en gros, qui était au pouvoir, et que ça amenait beaucoup d'éléments, et ça a fait, en quelque sorte, disjoncter un soldat de 25 ans, il était caporal, Denis Lortie, et qui entre dans l'hôtel du Parlement, donc à Québec, pour anéantir le président René Lévesque et les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Voilà, c'était son intention, il le dit, il y a eu deux procès, donc du coup on a beaucoup beaucoup d'éléments, et ces éléments ont été analysés par Pierre Legendre, donc il a fait un petit opuscule que je vous recommande si la question des meurtres vous intéresse. C'est diabolique ce qui s'est passé, et on retrouve dans tous les exemples que je vais vous donner, on retrouve beaucoup beaucoup d'éléments qui se correspondent, quoi, à quelque chose près. Donc bon, je vous en parle après. Donc en quelque sorte, par rapport à son projet, pas de chance, la salle de délibération est vide. Alors, comment c'est possible que la salle soit vide? Eh bien, ça montre là aussi la psychose de Denis Lortie. C'est que lui qui est militaire, qui donc fait son pactage, il a même son masque à gaz, si vous voulez, pour mener l'attaque. Il tire des rafales sur une citadelle et il fait tout un truc vraiment guerrier. Et là, il ne prend pas une montre, comme tout un chacun, en tout cas à l'époque. Là, maintenant, on dirait le portable, quoi. Mais là, non. Il est en voiture, il écoute la radio, et cette radio, c'est ce que les Canadiens appellent radio poubelle. C'est-à-dire un tissu de saloperie, je ne sais pas quel est le mot qui pourrait le remplacer, et qui débite des horreurs sur le gouvernement et sur tout un truc. Et en gros, ça, il faut tout faire sauter, etc. Et il reste dans sa voiture quand il est devant le Parlement, et là, il attend que l'animateur principal, Arthur, en quelque sorte, ait fini son émission, et normalement, l'émission finit à 10h. Mais pour une raison inexpliquée, c'est à 9h40 que le speaker s'arrête de parler. Ça lui donne le signal de la fin de l'émission, et donc du coup c'est le moment, théoriquement 10h, en fait non, bien en avant, où il veut passer à l'attaque, et donc du coup il rentre dans le Parlement, et puis là il rentre dans le salon bleu, et puis c'est là que normalement il y a l'Assemblée, et l'Assemblée pas encore réunie en quelque sorte. Et là, il va y avoir 3 morts et 13 blessés. Alors, bien sûr, ça peut paraître dérisoire par rapport à maintenant les chiffres qu'on relève, comme drame, comme victime, disons, mais à l'époque, ça a été vraiment quelque chose, un traumatisme pour les Québécois et pour l'Amérique, extraordinaire. Alors voilà le lieu là, de l'Assemblée nationale dans lequel il rentre en quelque sorte. Et puis voilà la radio, donc, et qui, bon, par chance, en somme, l'émission est décalée. Et voilà ce qui se passe. Alors à ce moment, de choses. Donc il rentre dans le salon bleu et dans les couloirs, bien, toutes les personnes qui croisent, il leur tire dessus au fusil mitrailleur. Donc il y a 3 morts et puis beaucoup de blessés. Et il rentre dans le salon bleu, qui est la salle de délibération de l'Assemblée. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, il pose son arme, vous la voyez là, et puis il s'installe à la place de René Lévesque qui voulait assassiner en quelque sorte. Et puis bien entendu, comme elle est vide, ils ne peuvent plus tirer. Et à ce moment, les bruits ont attiré un certain sergent d'armes. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est plus que sergent probablement, puisque lui est caporal. Et que ce sergent d'armes qui s'appelle René Jalbert, eh bien, rentre dans la salle et puis commence à engager le dialogue avec Denis Lortie. Voilà. Et il fait valoir qu'il est sergent, et comme lui est caporal, pardon, bien entendu, tout de suite, il se met en état d'infériorité, et donc du coup, il accepte de répondre à ses questions. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dans quelle situation tu t'es mis? Bon, et au bout d'un moment, il dit, bon, écoute, c'est pas compliqué, hein, reste-en là, tu peux encore t'en sortir, je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider, donne-moi ton arme, et puis tu viens te livrer à la police. Ah non, non, pas la police, je peux pas le souffrir. Bon, ben, on dit rien, je vais t'emmener chez les militaires. Et finalement, donc, il est en quelque sorte sous la coupe de ce sergent, et il le suit, et bien entendu, quand il sort du salon, les policiers lui sautent dessus, et puis le neutralisent en quelque sorte. Alors voilà, donc là, pour les Québécois, c'est un homme héroïque que ce sergent, là, qui a pu en quelque sorte désamorcer la bombe. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, là, il l'emmène en bateau, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, là, il y a beaucoup de choses qui ensuite vont ressortir. C'est-à-dire, bon, pourquoi est-ce qu'il va s'asseoir sur ce fauteuil? Ben, finalement, fauteuil, c'est le président de l'Assemblée. Et donc, on lui dit, mais pourquoi tu voulais détruire cet homme? Et puis l'Assemblée dit, ben parce que dans cette Assemblée, je voyais l'image de mon père. Voilà. Il s'est mis dans la position du père, c'est-à-dire, il s'est mis de cette façon à la place du père. Et par chance, ayant posé son arme, il n'a pas pu tirer sur le sergent, et le sergent lui dit, mais bon, je suis sergent. Et donc du coup, il avait un père au-dessus de lui qui a permis de désamorcer. Et alors, c'est bien sûr toute cette histoire qui est démontée complètement et qui est extraordinaire pour comprendre ce qui se passe. Alors voilà, en gros, c'est la quatrième de couverture, hein, revue et un peu condensée. Hein, c'est la doctrine du meurtrier, c'est dite en une formule. Le gouvernement du Québec avait le visage de mon père. Voilà. Alors c'est là-dessus que le gendre, qui est donc, en gros, faut que je le dise deux mots, c'est un juriste, juriste spécialiste du droit romain, et qui en plus est lacanien, et donc a compris, on va dire, la théorie de Lacan, et la théorie de Lacan, c'est essentiellement la métaphore paternelle, le nom du père, etc. Et donc il creuse ce sillon, avec une profondeur assez captivante, hein. Comment faire face pour notre temps à la nécessité de mettre en parole la scène humaine de l'inceste et du meurtre afin d'en déjouer l'accomplissement dans la vie quotidienne. Voilà, ça renvoie au complexe d'Oedipe, bien entendu, hein. Alors, si vous voulez, je reviendrai un petit peu pour donner deux ou trois choses. L'interdit est avant tout un problème de vérité, la vérité de la différenciation humaine. Ça, c'est surtout essentiellement la horde primitive, le mythe de la horde primitive qui permet à le gendre de constituer le système. Donc, le parricide, c'est l'attaque de la construction de la raison. Voilà, ça c'est c'est tout le raisonnement essentiel de le gendre. Donc en gros, prenons peut-être juste deux mots sur la horde primitive. Cette horde provient de descriptions des peuplades sauvages, en quelque sorte, à l'époque de Rousseau et compagnie. Et puis ensuite arrive Darwin, et Darwin émet une hypothèse en disant, mais au début de l'humanité, on était forcément des bandes d'Homo sapiens, et donc on déambulait, et probablement il se passait une chose, c'était qu'il y avait un père dans la bande, un mâle de la bande, hein, parce qu'il résonnait aussi bien en singe qu'en humain, il y a un mâle, un vieux mâle qui est irascible, qui en quelque sorte garde toutes les femelles pour lui, et puis qui éloigne tous les jeunes hommes, tous les fils en quelque sorte, et même les martyrise, et que les jeunes mâles en quelque sorte, à un moment, qui en ont assez d'être toujours à la marge, finalement se liguent, trouvent peut-être une nouvelle technique, et puis décident d'un complot contre le père, le chef de la horde sauvage en quelque sorte, et puis ils finissent par le tuer en gros. Donc il y a le meurtre du père, tout simplement, et puis là, à ce moment, que faire? Eh bien, le plus simple, c'est encore de le dévorer. Bon, la passion dévorante, là, hein, c'est-à-dire parce que tout le monde le craint, mais tout le monde a envie d'être à sa place. Et donc, c'est ce qu'on voit encore dans beaucoup de civilisations, où on mange une partie de l'ennemi pour s'approprier ses qualités. Donc, du coup, c'est vraiment typiquement de l'incorporation en même temps que l'ingestion. Alors, ils font un repas, c'est le premier repas totémique, en quelque sorte, c'est un peu la fête, hein, parce que bon, ça y est, on a eu le dictateur, c'est la révolution arabe, si j'ose dire, hein, bon, on a pu mettre Bob Ben Ali, etc. Mais après, bon, on sait ce qui se passe, hein, probablement, c'est-à-dire, finalement, tous les frères savent très bien que ça va dégénérer. Et ça va être des révolutions de palais, que tous vont s'égorger les uns les autres, en gros, et ils arrivent à dépasser ces pulsions de mort en convenant d'un pacte. Et le pacte, c'est de dire, c'est simple, voilà. Hein. D'abord, on est tous coupables, on est tous solidaires, donc au bout d'un moment, on est tous coupables d'avoir tué le père, et donc plus jamais seul. Donc du coup, on interdit le meurtre. Voilà, et donc on décide que dans cette tribu, voilà, désormais, ça n'est plus, ils sauvent leur peau en quelque sorte, hein, ça n'est plus possible de tuer le père, donc c'est le parricide. Et puis deuxièmement, on dit, c'est sûr, pourquoi est-ce qu'on se dispute? C'est pour se partager les femelles. Et c'est le tabou de l'inceste à ce moment qui est énoncé, voilà. C'est-à-dire tu ne pourras avoir des commerces sexuels qu'avec des femmes qui ne font pas partie de la tribu. Voilà, tout. Et donc là, ce qui explique aussi bien, non pas Darwin, mais parce que Darwin reste tout simplement à décrire ce qui se passe dans une horde sauvage, et puis Freud la reprend, et puis il donne à peu près les éléments que je viens vous donner, et ce que dit Jean, c'est que justement, il y a en quelque sorte quelque chose qui est premier, ce qui est premier, c'est justement d'avoir établit cette loi, référence fondamentale, qui consiste en deux interdits, un double interdit, interdit du meurtre, hein, qu'on retrouve dans toutes les religions, en gros, théoriquement, en tout cas, pas toujours appliqué, hélas, et puis deuxièmement, l'interdit de l'inceste. Et donc, c'est redoublé ensuite par l'Œdipe, dans cette fois, où là, c'est simplement, lorsque Freud essaye de faire sa propre analyse, il tombe sur des problèmes assez étonnants, en disant, finalement, je désirais ma mère, j'avais envie de tuer mon père, etc. Et puis, bon, là, ça lui évoque ce qu'il faisait dans sa jeunesse, sa tendre jeunesse, il faisait beaucoup de théâtre, et en particulier Œdipe roi, et donc, bien entendu, là, au bout d'un moment, il a compris que Sophocle avait décrit absolument ce qui le pressentait, quoi. Puis ensuite il l'a vérifié sur une grande quantité d'hystériques, et que donc il a dit, c'est le complexe d'Œdipe, où en gros se rejoue la scène, en gros c'est Laios qui ne peut pas avoir d'enfant avec Jocaste, et qui va voir un oracle. Et cet oracle lui dit, oh là là, mon Dieu, c'est un bonheur parce que l'enfant que vous pourriez avoir vous tuerait et puis coucherait avec votre femme, etc. Alors, à un moment, moment, Jocaste en a marre de pas avoir d'enfant. Alors, je sais pas, elle fait tout un tas de manœuvres en enivrant Laïos, et finalement, ça aboutit à une conception. Voilà. Alors, à ce moment, quand Laïos voit l'enfant, il ne dit rien à personne, il s'empare de l'enfant en question, et puis il l'emmène, mettons, sur la montagne, et il lui perce les deux pieds pour les ligoter, pour pas qu'il puisse s'enfuir, et que donc que les charognards viennent le manger, en quelque sorte, d'où le nom d'Oedipe. Oedipos, c'est les pieds déformés, en quelque sorte, et il rentre dans son palais, Jocaste est en colère, mais enfin bon, on lui a volé son enfant, et Oedipe, finalement, est pris en pitié par quelqu'un qui passe, un berger, admettons, et qui l'emmène dans la ville rivale, en quelque sorte, et là, c'est dans la ville rivale, il y a un roi qui se désole de ne pas avoir d'enfant, et il adopte, finalement, cet enfant tel qu'il est. Au bout d'un moment, l'enfant en question part de la ville en question, et puis fait sa marche à nouveau vers Thèbes, d'où il était originaire, et en passant, en arrivant, donc comme il était prince avec ses armes, finalement, sur la route, il y a un vieillard arrogant qui lui dit « Sors-toi de mon chemin », etc. Et finalement, l'altercation se développe, et il le tue. Voilà, il se trouve que c'est Laïos, voilà, c'est-à-dire son géniteur, en quelque sorte. Et rentrant dans Thèbes, Oedipe, finalement, est reçu comme un sauveur, en quelque sorte, de l'avoir débarrassé de Laïos. Et il est nommé roi, en quelque sorte. Et étant roi, il se doit d'épouser la reine veuve, la reine qui était veuve. Voilà, il se trouve que c'est Jocaste, donc. Et donc, du coup, je ne sais plus qui là, révèle, encore là, toujours la pitié, que finalement, il révèle à Jocaste que finalement, elle a couché avec son fils, son propre fils, en quelque sorte. Et à ce moment, Oedipe est dans tous ses états et se crève les yeux par, en quelque sorte, et puis Jocaste se défenestre, en quelque sorte. Voilà, alors donc là, bien entendu, ça voulait dire que l'oracle avait, en quelque sorte, prédit ce qui allait se passer, puis à l'insu de son plein gré, tous les acteurs ont joué le jeu malgré eux. Bon, il y avait un élément inconscient qui se passait, ce qui fait que Freud dit, c'est un inconscient collectif qui nous vient culturellement. Alors, on ne sait pas exactement comment c'est. Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est un mix des deux? On ne sait pas, mais c'est ce qui se passe. Et on retombe, bien entendu, sur cette histoire de hors primitive, de ces doubles interdits, pour ne pas avoir de désordre dans la cité. On est obligé d'appliquer cette loi, L majuscule, hein, bien sûr. Et donc ça, c'est ce qui est raisonnable. Et quand on perd la raison, justement, c'est justement là qu'on fait des actes qui peuvent conduire au parricide, en quelque sorte. Donc ça nous amène à rentrer dans la psychose, plus ou moins, ou rester à la frange, mais voilà, c'est une décompensation. Alors, prenons les exemples, là, puisqu'une fois que vous avez ça en tête, on doit pouvoir... Voilà, c'est à Tours que ça se passe. Jean-Pierre Roux, donc du Rafour, donc il a 47 ans, il est cheminot, passionné de tir, il est père de 3 enfants, il est divorcé depuis 2 ans, et puis, suite, donc il a ses fils à charge, et suite à une altercation avec son fils, eh bien, il s'enfuit à Tours, dans la ville, au centre-ville, vers la place Jean Jaurès, et là, voilà, point de similitude avec le précédent, c'est à 300 mètres de l'hôtel de ville. Voilà, c'est-à-dire un lieu marqué par, justement, la loi, quoi, en quelque sorte, le gouvernement, moins de la ville, hein, le maire, en quelque sorte. Voilà, et il se met à faire une fusillade qui dure 30 minutes, Et là, la police arrive et il se réfugie dans le parking de la gare. Comme il est cheminot, il connaît, il compte pouvoir s'éclipser et en fait, le raid l'encercle. Et là, voilà ce qu'il déclare. Je veux un avion pour Kaboul. Voilà. Bon, il est un tour. On va sûrement lui donner un avion pour Kaboul. Voilà. Le bilan, c'est 4 morts, 7 blessés. Alors, bien sûr, lui, il joue l'amnésique. Ça ne marche pas parce qu'il y a plusieurs psychiatres qui se penchent sur lui et disent ben non, il est simplement tout à fait lucide, il est infantile, affabulateur, mégalomane. Voilà, c'est-à-dire, bon, on n'est pas très loin de la paranoïa, là, il est rentré dans la psychose. C'est un admirateur de Ben Laden, hein, c'est six mois après le 11 septembre, et il simule l'amnésie et le diagnostic, on dit en gros, ben c'est une structure borderline, c'est-à-dire bon, qui navigue entre la névrose et la psychose. 29 avril 2001, donc, hein, ça se rapproche de nous, hein, voilà son visage au cours du procès. Alors, le deuxième exemple, toujours français, hein, que vous connaissez aussi, c'est Nanterre. Voilà, le 26 mars 2002, donc l'année suivante, hein, Richard Durm, eh bien, tire sur le conseil municipal. Il tue 8 personnes et blesse 27. Il est en garde à vue. Non. Il se défenestre. Il est son tombe qui n'était pas entravé, ou en tout cas, bon, il a pu se défenestrer. Donc, il a 33 ans, il est demandeur d'emploi, il a effectué des missions humanitaires au Kosovo et en Bosnie. Il est d'origine slovène. Il est titulaire d'une maîtrise de Sciences Po et d'une licence d'histoire. Et en même temps, et en plus, c'est un militant écologiste et c'est un ancien membre du PS. Donc il était bien au courant des conseils municipaux et donc du coup, bien sûr, on retrouve la structure de quelque chose qui a un rapport avec le gouvernement et qui donc a un rapport avec la loi et qui donc a un rapport avec les pairs, hein, probablement. Et il est également militant de la Ligue des droits de l'homme. Étrange. Bon, voilà la commémoration, enfin, tout de suite après voilà les 8 personnes du conseil municipal qui sont en effigie, là, en quelque sorte. Voilà son visage. Et puis, il a pu faire quelques déclarations avant de sauter par la fenêtre. Alors, je vous les lis, parce que ça vous donne bien la tonalité. Puisque j'étais devenu un mort-vivant par ma seule volonté, je décidais d'en finir en tuant une minime élite locale qui était le symbole et qui était le leader et décideur dans une ville que j'ai toujours exécrée. Il explique vouloir tuer le maire, puis le plus de personnes possible avant de se tuer ou d'être tué. Voilà, c'est-à-dire dans le même diabolique chevauché en quelque sorte, tout comme Denis Lortie pensait que avec tout ce qu'il avait fait auparavant, il devait être exécuté, enfin, il pouvait pas arriver jusqu'au salon bleu, hein. Il y avait des sentinelles, il y avait tout un... Mais tout le monde l'a laissé passer, personne l'a fouillé, enfin, bon, c'était incroyable pour lui. Je vais devenir un serial killer, un forcené qui tue. Pourquoi ? Parce que le frustré que je suis ne veut pas mourir seul alors que j'ai eu une vie de merde. Je veux me sentir une fois puissant et libre. Et donc là, on a la mégalo paranoïaque, en gros, qui est en place. Et puis, l'autre cas que vous connaissez tous, je pense, c'est passé en deux temps, toujours sur le même jour, hein, Oslo et Utøya. Utøya. C'était le 22 juillet 2011, donc c'est le plus proche de nous. Et là, alors, c'est vraiment un carnage épouvantable, 77 morts et 151 blessés. Donc voilà la bête, si j'ose dire, hein, la bête humaine. Donc là, au passage, donc, il a publié un manifeste de 1500 pages qui est quelque chose de délirant, on va dire, hein, donc déraisonnable. Pour rester sûr avec l'élément, il était surarmé, déguisé en policier, et puis on apprend dans ce texte que c'est un fan absolu de Call of Duty, Modern Warfare, BioShock, World of the Warcraft, Fallout, Dragon Age, etc. C'est vraiment les jeux vidéo les plus hard, en quelque sorte. Hein. Et il a passé des années à se former sur la manière de tuer avec ces jeux de tir, en quelque sorte, hein, pour perfectionner la machine à tuer, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc, en gros, quelques images qui ont été retrouvées. Donc, il a fait un petit tour chez les francs-maçons avant d'être congédié au bout de 3 mois. Il ne correspondait apparemment pas à l'idéologie franc-maçonne. Et puis, il aimait se déguiser. Donc, on reconnaît là des signes qui sont quand même un petit peu marqués, là, à nouveau. Et puis, d'autres, bon, le jeune homme bien présentable, en quelque sorte. Voilà, vous retrouverez tout ça sur Internet, hein, il y en a des valises. Donc, la deuxième sous-catégorie de ces tueurs de masse, ce sont les tueurs en milieu scolaire. Voilà, alors donc là, bien sûr, pourquoi le milieu scolaire? Parce que là, c'est très facile, hein, il y a une concentration d'élèves ou d'étudiants extraordinaire, mais bien sûr, le corollaire, c'est que jusque-là, au moins dans nos pays civilisés, on avait une sanctuarisation de la jeunesse, hein, c'est-à-dire un tabou comme quoi on ne touche pas aux enfants, voir dans les prisons comment sont maltraités ceux qui touchent les enfants. Hein. Mais là, il y a une transgression qui est en cours, qui est en train de se mettre en place. Hein. Les tueurs sont jeunes, issus des établissements, la plupart du temps. Hein. Les élèves et les enseignants sont visés, ils sont adeptes des jeux vidéo, là aussi, ben voilà, j'en prends 3, Columbine, Virginia Tech, et puis Newtown, aux États-Unis, et il y en a peu relativement en France, il n'y en a même pas eu, sauf un cas, dont je parle après, dans l'autre catégorie, mais voilà, alors là j'ai fait le tableau de tous les meurtres entre 59 et 2012, et puis c'est par ordre d'apparition, ce qui fait que voilà, c'est là qu'on commence, ça commence, et puis ensuite ça descend. Donc voilà, c'est l'ordre d'arrivée des meurtres en quelque sorte. Donc on voit que la France, elle est en bas du tableau, elle est récente, c'est 2012. 2012, c'est forcément l'école juive avec Mohamed Merah, mais c'est pas la même catégorie que les précédents, parce que c'était une école juive, donc c'était en tant que juif, c'était pas en tant qu'écolier qui sont touchés. Mais bon, ça en fait partie. Donc voilà, aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup, c'est là qu'il y a le maximum. Puis le Canada est quand même beaucoup touché, l'Allemagne aussi, c'est surprenant. Et puis ensuite, ben oui, ça descend. Donc bien sûr, il faut rapporter aux populations, hein, mais bon, ça fait quand même beaucoup, et alors ça s'accélère. C'est assez diabolique. Donc voilà, Columbine, vous devez connaître, hein, bien sûr. Donc, une high school. Voilà un petit peu les scènes qui ont été tirées par les caméras vidéo. Alors, bon, tout le monde est planqué, bien sûr, dans la cafétéria, là. Voilà, donc beaucoup de blessés. Hein, donc, 13 morts, 24 blessés. Et puis, les deux jeunes tireurs se suicident. À la sortie, les voilà, donc Dylan Klebold et Eric Harris, 18 ans tous les deux, donc il y en a un qui est plutôt borderline, Dylan, et puis Eric est en dépression manifestement au moment des éléments, mais il prend du Zoloft. Or le Zoloft, on a décrit que des fois il y avait des passages à l'acte, c'est possible que ça soit produit. L'autre cas, c'est Blacksburg, en 2007, cette fois, le campus Virginia Tech. Bon, alors cette fois, c'est 32 morts, 29 blessés, et puis l'auteur se suicide. Voilà son visage, là, donc c'est Shoshan Lui, il a 23 ans. Et voilà ce qu'on trouve dans sa chambre. Sur la partie droite, là, non seulement des mises en scène où il veut se suicider, où il fait mine de suicider, puis ces signes cabalistiques qui se révèlent être 88, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les codes, mais je pense qu'il faut les connaître. Le 88 est un signe de reconnaissance néo-nazi. c'est le code correspondant à l'abréviation HH. Le H est la huitième lettre de l'alphabet latin, signifiant Heil Hitler. Donc c'est salut hitlérien, pour revenir à quelque chose que vous connaissez soi-disant inversé. Et puis, on le reprend à l'envers. Le S correspond lui aussi à la huitième lettre de l'alphabet, mais en partant de la fin. Et donc, 88, ça veut dire SS. D'où Légion 88, un groupe de musique néo-nazi. Voilà, alors Newtown, donc là c'est 2012, 14 décembre. Bon, voilà, là aussi un carnage. Quelques vues de. Voilà, donc c'est une école primaire, hein, donc, qui est concernée, là, pas des étudiants. Là. Voilà. Un petit montage là où il y a les prénoms de chacune des victimes. Donc alors, le jeune qui a tiré là, a d'abord tué sa mère, puis il est parti en direction de l'école, il a tué 28 personnes, et ensuite il s'est suicidé. Voilà, c'est Adam Lanza, il avait 20 ans, et deux choses. D'une part, il voulait rivaliser avec Breivik, tout simplement. C'est-à-dire, bon, manifestement, il y a beaucoup d'éléments qui laissent entendre qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo, et on a des preuves qui montrent que durant la fusillade, il s'est probablement imaginé dans un jeu vidéo, chaque victime supplémentaire augmentait une sorte de score. Voilà, c'est-à-dire, bon, on fait une encoche chaque fois qu'il arrive à atteindre une cible. Et alors, là, comme il est mort, on ne pouvait pas l'analyser, mais par recoupement, les psychiatres hésitent entre deux diagnostics, quoi, ou bien l'Asperger, ou bien la psychose. Alors, ça fait beaucoup d'éléments. Là, voilà, vous reconnaissez l'alarme que Barack Obama retient, parce qu'il évoque que ses enfants avaient l'âge de ses propres enfants, quoi, et du coup l'émotion le submerge, et il demande au Parlement d'accepter réguler les ventes d'armes à feu aux États-Unis, hein, 23 décrets pour prévenir les fusillades de masse et réduire l'épidémie galopante de la violence armée aux États-Unis. Et dans cette perspective, il a également demandé au Congrès de financer la recherche américaine à hauteur de 10 millions de dollars sur les liens éventuels entre la violence et les médias, au premier rang desquels figurent les jeux vidéo. C'est-à-dire là aussi, comme ces jeunes sont fervents de jeux vidéo, bon, on n'a pas tout à fait le droit, parce qu'on ne peut pas expérimenter, bien entendu, mais la corrélation est quand même assez nette. Enfin, la série que vous connaissez bien, Les tueurs en série, si j'ose dire, les tueurs se déroulent. Les tueries se déroulent pendant longtemps, hein. Ça peut être un an ou deux ou trois ou quatre, hein, voilà. Et donc ça dépend un peu de l'avancée de la police scientifique, mais ces tueries se font selon un rituel bien assez stéréotypé, ce qui permet d'expliquer l'intervention des profilers. En quelque sorte. C'est-à-dire, bon, on définit le profil et puis on réduit de plus en plus l'étau autour de la personne potentielle. Alors, je vous donne les noms, on va revoir juste le visage de quelques-uns. Guy Georges, Pierre Chanal, Thierry Paulin, Patrick Allègre, Francis Holm, Pierre Louis, Michel Fourniret, par exemple. Bon, alors, bon, ce sont des noms illustres, hélas. Bon, on s'en passerait, mais bon, vous connaissez Francis Holm, là aussi, les super prédateurs, en quelque sorte. Guy Georges. Alors voilà, ce que Daniel Zagori, qui est un psychiatre qu'il a vu plusieurs fois, voilà ce qu'il dit. Au fur et à mesure de l'entretien, je me décompose, pas seulement à cause des faits eux-mêmes, je savais déjà de quoi certains humains sont capables. Mais je constate que l'effet de terreur qu'il a sur moi lui procure une jubilation, voire une jouissance abjecte qui me glace d'effroi. C'est-à-dire, bon, là, vraiment, il n'y a pas d'empathie pour les victimes, pour rien, et même au contraire, il jouit de la souffrance du psychiatre lui-même. Au sortir de cette confrontation, j'ai quitté la prison avec la sensation physique d'avoir parlé avec le diable en personne. Michel Fourniret, si. Bon, alors voilà, c'est pour ceux qui veulent approfondir l'énigme des tueurs en série. Hein. Alors, les dimensions perverses consistent à utiliser l'autre pour rejouer en inversant les rôles, les souffrances et les dérélictions subies dans l'enfance. Hein. C'est peut-être une hypothèse de travail. Hein. Cette fois, c'est l'autre qui souffre et c'est moi qui jouis. Il y a un renversement des rôles. Alors voilà, par exemple, dans cette veine, voilà, une collègue de Lyon 2, Magali Ravi, qui est spécialiste de ces personnes, et puis quelqu'un que vous devez connaître aussi, Pierre Lamotte, qui par exemple soigne le meurtrier d'Agnès Marin, cette jeune fille de 14 ans qui était tuée au Chambon-sur-Lignon. Et enfin, la dernière catégorie, pour finir, les tueurs à la chaîne. Alors, le meurtrier commet plusieurs meurtres dans un laps de temps très court, généralement quelques heures, sans se soucier de l'identité des victimes, tuant toute personne qu'il rencontre sur son chemin, y compris les membres de sa famille. Alors, bien sûr, il y a des modulations, hein, tout le monde ne tue pas ses membres de sa famille, mais ça peut bien commencer par le membre de la famille. Ce mode d'assassinat est extrêmement risqué pour l'auteur. La plupart des tueurs à la chaîne agissent en état d'instabilité mentale ou sous influence. Alors, par exemple, Jean-Claude Roman, Éric Borel, et puis Mohamed Merah, d'une certaine façon. Hein, donc, alors, là, c'est en 93 que Roman tue sa femme à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Puis, il monte à l'étage avec une carabine de long rifle. Il tue sa fille, qui a 7 ans, et son fils, qui a 5 ans. Après, il range la maison, sort en ville. Il tue son chien, un labrador. Hein. Il sort en ville, puis passe la soirée à regarder la télé, des films vidéo, etc. Il part déjeuner chez ses parents, un peu plus loin, et les tue avec la 22 long rifle. Et il passe la soirée avec sa maîtresse, puis tente de la tuer dans la forêt de Fontainebleau. Elle s'échappe, il rentre chez lui et met le feu à sa maison, mais à 4 heures du matin, après avoir avalé des barbituriques périmés depuis 10 ans. Alors, il connaît tout de la médecine, et donc, bon, comment ça se fait qu'ils prennent des barbituriques bon, donc, il avait une 22 long rifle, bon, ça pouvait pas résister, hein, dans la bouche, il pouvait se tuer. Il savait tuer sa fille et son fils, de 5 ans et 7 ans, bon, barbiturique périmé, bon, mais le feu éclate à l'heure où passent les éboueurs, ce qui permet aux pompiers de le sauver. Les pompiers retrouvant les corps des enfants et de la mère à l'étage, dans leurs chambres respectives, imbibées d'essence. Voilà les victimes, quelques-unes des victimes, en quelque sorte. Et puis, après coup, on s'aperçoit que peut-être bien il avait tué son beau-père, mais 2-3 ans auparavant, et probablement le beau-père avait découvert son système d'emprunter, de jamais rembourser, et il lui avait donné un ultimatum de le rembourser, sinon il allait en parler à sa femme, et là il l'a tué probablement, et puis les choses se sont envenimées. Donc il est resté 18 ans à faire croire qu'il était médecin à l'OMS, hein, quelque chose à Genève, et auparavant, pendant 7 ans, il amenait tout le monde en bateau, comme quoi il faisait médecine. Or, il avait manqué la première année de médecine. De pas grand-chose, paraît-il, et on ne sait pas pourquoi, il ne s'est pas réinscrit en deuxième année, il est monté suivre les cours avec les copains en deuxième année, et troisième et quatrième, et tout le monde le considérait comme un médecin. Ses copains de promo en sont pas revenus, quoi. Bien souvent, dans leur cabinet, ils lui téléphonaient pour lui demander des tuyaux, il répondait parfaitement bien. C'est bon, un génie de la médecine, probablement, mais un imposteur, quoi. Et bien sûr, il menait grande vie, comme un grand professeur de médecine, Et bien entendu, pour ça, il empruntait à tous ses copains et sa famille de l'argent en disant, allez, si tu veux, je connais un truc en Suisse, là, où ça, vraiment, ça va te rapporter 25%, voire, un Madoff, en gros, hein, voilà, bon, un escroc. Voilà son visage, donc. Et alors, bien sûr, il est en prison, il va bientôt être libéré, c'est-à-dire dans un an. Mais il n'empêche que dans la prison, c'est le docteur Roman, entre guillemets, si vous voulez, et il soigne les co-détenus bien mieux que à l'infirmerie, il leur donne des conseils, il continue à faire de la clinique, cet enfoiré. C'est incroyable, quoi. Il aurait fait un médecin hors pair, probablement, et non, c'est simplement, il a ripé au moment d'aller se réinscrire en première année, probablement, ça l'aurait déshonoré, parce qu'il était imbu de lui, de ses capacités. Il n'a pas voulu revenir en arrière, et du coup, ben, ça l'amène. Alors bien sûr, ça ressemble étrangement à la famille de Ligonès. Hein. Voilà les victimes. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il en est. Un autre exemple, c'est Éric Bonnel. Alors un jeune, vraiment jeune, 16 ans. Voilà, son père est mort d'un cancer un an avant. Il vit à Kers avec sa mère, donc dans le sud. Hein. Et puis, un beau jour, il s'empare du 22 Lanrive de son beau-père, il tue ce beau-père, puis il y a un demi-frère qui est là, il le tue, ensuite il attend que sa mère rentre à la maison, il la tue, et ensuite il va chez son ami Alan, et il le tue également, voilà, alors bon, incroyable. Et ensuite, il part dans une chevauchée sauvage qui dure 30 minutes dans le village. Il est cerné par les gendarmes et se suicide devant son collège. Voilà, c'est-à-dire il arrive à se suicider, là encore, devant son collège. Bon, 15 morts et 4 blessés. Voilà son visage. Et puis enfin, le dernier de la série, hein, bon, c'est Mohamed Merah, donc 2012. Hein, donc deux séries, la première à Montauban, là, il abat 3 militaires qu'il estime être traîtres à l'islam. Et puis, ensuite, quelques jours plus tard, il se tourne du côté de cette école hors Torah, qui est pas très loin de l'endroit où il habite. Et là, il tue un professeur et quatre élèves dans des conditions assez horribles, quoi, hein, dans la chasse à l'homme. Voilà, alors, bon, voilà les camarades de l'école devant le cortège de cercueil en quelque sorte, hein. Voilà Mohamed Merah. Moi j'aime la mort, moi la mort je l'aime, je crois, et puis comme vous aimez la vie, dit-il à un policier. Et puis enfin, ben voilà, pour un petit peu finir la série, voilà Joé le je ne sais quoi qui fait son soi-disant salut, devant l'école hors Torah, là, bien sûr, donc c'est un geste éloquent. Je pense qu'il applique la recette lyonnaise jusqu'au bout, c'est en poche les quenelles, et puis après on les passe au four, quelque sorte. Là aussi, mais ça aussi, c'est les points de suspension, et l'inversion du geste, je ne sais pas si on peut y voir le sens d'écriture de l'arabe et de l'hébreu, qui est inversé par rapport à l'écriture occidentale. Et enfin, pour finir, oui, ben ça je vous l'ai lu, donc c'est pas la peine. Voilà, la biblio, ben, sommaire, parce que pas la peine d'en rajouter trop. Claude Ballier, La violence en abîme, au PUF. Pierre Legendre, donc bien sûr, Le crime du caporal Lortie, Traité sur le père. Flammarion 2000, par exemple, dans cette collection-là. Et puis enfin, Maurice Corcos, L'émotion mutilée, approche psychanalytique des automutilations à l'adolescence, la psychiatrie de l'enfant. Voilà, c'est une revue en français qui est très très bien faite là-dessus. Voilà, bon, ben je m'arrête, si vous voulez, pour en quelque sorte que vous puissiez poser une question. Merci pour votre écoute. Thank you.